comment se manifeste la persécution de nos frères et sœurs dans le monde. Ces témoignages peuvent faire naître dans nos cœurs des sentiments d'indignation, de colère, et même des pensées de vengeance. L'indignation et la colère sont des réactions normales, légitimes. En revanche, nous ne devons pas céder à la tentation de la vengeance, car c'est le domaine réservé du Seigneur. L'apôtre Paul écrit en Romains 12, verset 19, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Il citait là Deutéronome 32, 35. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous décrit une vision qu'il a eue. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Il leur fut demandé de patienter. La persécution des chrétiens est une réalité inévitable dont le Seigneur Jésus a pris soin de prévenir ses disciples. Jean Daniel l'a rappelé tout à l'heure. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Parole pas très réjouissante. Mais il a ajouté, s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Ça, c'est une parole qui nous remplit d'espoir. À l'aube de l'humanité, alors que celle-ci vient de tomber dans la désobéissance et le péché, le Seigneur a adressé cette parole au serpent, c'est-à-dire à Satan, en Genèse 3, verset 15. « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Il y a donc là une parole prophétique du Seigneur concernant deux descendances. Celle du diable, qui mordra le talon de la descendance de la femme, c'est-à-dire de Christ et par extension de ses disciples, les chrétiens. Et celle de la femme qui subira la persécution mais sera victorieuse, car son chef a remporté la victoire sur le mont Calvaire. Il me semble que la parole de Dieu nous invite à regarder le phénomène de la persécution comme un conflit spirituel, qui nous dépasse, mais dans lequel nous sommes nécessairement impliqués. Je vous invite à considérer un passage de l'Épître aux Galates qui me semble très éclairant sur la façon dont Paul comprenez la persécution. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, c'est Paul qui écrit à une assemblée des chrétiens Galates qui revenait un peu, enfin même beaucoup, à la loi de Moïse. Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar, mon Sinaï. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mon Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Là, il citait le prophète Ésaïe. « Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine, persécuté, le fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture ? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce passage, Paul fait allusion à un fait relaté dans le livre de la Genèse au chapitre 21. Je résume cette histoire. Abraham et Sarah n'ont pas eu la patience d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu d'une descendance. Alors ils se débrouillent pour avoir un fils par la servante égyptienne de Sarah, et ce sera Ismaël. Abraham est ravi de ce premier-né. Tout va bien jusqu'au jour où l'enfant de la promesse arrive. Et c'est Isaac. Le jour où le petit Isaac est sevré, Abraham organise une grande fête en l'honneur de cet événement. Mais en pleine fête survient une fausse note dramatique. Sarah voit rire Agar, la mère d'Ismaël. Cela peut paraître bien anodin. Mais pourtant, Sarah exige le renvoi d'Ismaël et de sa mère. Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. C'est Genèse 21, verset 10. Abraham est très embêté. Le texte dit affligé. Mais Dieu confirme la parole de Sarah. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Il faut reconnaître que humainement, cette histoire a quelque chose de choquant. Heureusement, l'apôtre Paul nous donne la clé spirituelle de cette histoire, ainsi que du phénomène de la persécution. Car c'est bien le mot « persécution » que Paul utilise dans le texte que nous avons lu. Ce texte est tout à fait étonnant. On ne voit pas dans le récit de la Genèse qu'Ismaël persécutait son demi-frère Isaac. Et pourtant, Paul l'affirme. Et cela sera confirmé par l'inimitié constante dont feront preuve les descendants d'Ismaël, globalement les Arabes, à l'égard des descendants d'Isaac, les Juifs d'abord, puis les chrétiens, qui, selon Paul, par leur foi en Jésus le Fils de Dieu, deviennent eux aussi enfants de la promesse. Paul pose à partir de cet incident, en apparence plutôt anodin, le principe général et constant que les enfants de la chair persécuteront les enfants de la promesse, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même intervienne pour y mettre fin, lorsqu'il reviendra, pour prendre pleinement possession de son royaume. Mais notons un fait très important et encourageant. C'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une situation figée. Chaque jour, des fils de la chair, de la descendance du diable, deviennent des fils de la promesse par leur conversion à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, cela s'est passé dans la vie même de Paul, le grand apôtre des nations. Avant de se convertir par une intervention plutôt musclée de Jésus-Christ, du haut du ciel, il persécutait à outrance la jeune église de son époque, allant jusqu'à poursuivre les chrétiens en dehors du territoire d'Israël, muni d'autorisation officielle de la part des autorités religieuses juives. Le fils de la chair qu'il était, un juif intégriste et hyper zélé, est devenu un fils de la promesse, comme Isaac, parce que désormais, il était serviteur du Christ et conduit par le Saint-Esprit. Et rappelons-nous la parole de Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais pour qu'ils gardent notre parole, il faut une intervention divine, comme cela a été le cas pour Paul. Jésus est intervenu du haut du ciel pour le stopper. Et le Saint-Esprit a suscité un chrétien pour lui annoncer la parole. Et en l'occurrence, c'était un chrétien syrien qui s'appelait Ananias. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que le Seigneur Jésus, qui a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel, ne règne pas aussi sur la persécution des enfants de la promesse? Je passe la parole à mon frère Hamid, chrétien originaire de Kabylie, en Algérie, qui est très au fait de ce qui se passe là-bas. Vous avez certainement vu que Portes Ouvertes alerte les chrétiens sur ce que vit l'Église protestante d'Algérie en ce moment, et même le CNEF s'en est ému. Il va nous donner son point de vue pour stimuler notre prière et aussi notre confiance dans la toute-puissance et la souveraineté du Seigneur. Hamid, je te passe la parole.
C'est pas la même altitude. Merci. Merci pour cette matinée, merci pour votre accueil et surtout merci de mettre ces moments pour penser à nos frères et à nos sœurs qui n'ont même pas cette liberté de se réunir, même dans leur propre lieu. Voilà. Pour parler un peu des événements qui se passent là en Algérie, peut-être beaucoup d'entre vous sont un peu au courant de ce qui se passe là-bas, au travers des réseaux sociaux, au travers des appels justement du CNEF ou de l'église de Mulhouse. Donc pour vous parler un peu de ces événements, il consiste en fait que les autorités algériennes ferment des lieux, procèdent à des fermetures des lieux de culte. Voilà. Et ça depuis 2016 déjà. Hein, ces événements ont commencé depuis 2016. Vous avez entendu parler de ça parce qu'ils ont fermé en fait la plus grande église évangélique d'Algérie. Dans une déclaration du ministre de l'Intérieur récemment que j'ai entendu, il dit qu'il y a 49 communautés chrétiennes affiliées à l'église protestante d'Algérie, EPA. Sur ces 49, ils sont aujourd'hui à une quinzaine d'églises de lieux de culte de fermés. Donc il y en a encore quelques-unes à fermer. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance de l'Église en Algérie, je vais vous donner quelques chiffres. Pour cela, je vais vous citer la Kabylie. Ma région, donc la Kabylie, c'est une région qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, à peu près au centre-est. En surface, c'est à peu près l'équivalent de 3 départements ici en France. En population, ça fait à peu près 15% de la population algérienne. Donc les Kabyles, ce ne sont pas des Arabes. Je sais que pour beaucoup, on dit Maghreb, on dit l'Algérie, c'est des Arabes. Les Kabyles ne sont pas des Arabes. Donc ils ne sont pas attachés culturellement à l'islam, ce qui est la différence par rapport aux autres régions d'Algérie. Dans deux de ces départements, les plus importants, on va dire, et les plus kabylophones. Il s'agit de Tizi Ouzou, Béjaïa. C'est les plus importants. J'ai vu à peu près les chiffres. Il y a 120 communes dans ces deux départements. La Kabylie, c'est la région où l'on trouve le plus d'habitants au kilomètre carré. C'est des montagnes, on s'est réfugié là-bas et puis on a vraiment conquis ces montagnes. Sur la plus petite commune, elle va comporter à peu près au minimum 4 à 5 villages. Donc si on multiplie par 120 communes, vous voyez, ça donne quand même à peu près dans les 600 villages. Deux départements seulement. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un village chez nous en Kabylie où il n'y a pas au moins un chrétien, au moins, minimum. Sinon, c'est des communautés de 10 à 15, ou même des fois plus importantes que ça. Vous voyez, Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux de culte à fermer à nos autorités algériennes. L'EPA, l'église protestante d'Algérie, donc c'est fermeture de ces églises affiliées à cette association, et c'est une association donc officielle agréée par l'État en 1974. Au début, c'était pour surtout permettre aux étrangers résidant sur le sol algérien de célébrer leur foi. Il y a l'association pour les catholiques, les orthodoxes, etc. Elle a le titre d'association étrangère. Et donc, c'était pour uniquement les étrangers. Mais plus tard, la loi, elle va évoluer. En 88, il y a eu des événements, de grosses manifs. Il y aura une nouvelle constitution qui va consacrer la liberté de conscience, sur laquelle aujourd'hui s'appuient justement nos frères et sœurs de là-bas. Et le but ou les statuts des associations étrangères va changer. Au début, c'était que des étrangers qui étaient membres de ces associations. Mais là, est dite association étrangère, toute association qui comporte en son sein au moins un étranger. Du coup, ça a donné l'idée à certaines communautés, celles-là qui étaient plus exposées, celles-là qui étaient dans les villes, grandes et moyennes villes, ça leur a donné l'idée d'intégrer cette EPA pour avoir cette couverture juridique légale et pour pouvoir, en face des autorités, justement, dire, voilà, nous exerçons conformément, en toute liberté, conformément à la loi. Donc voilà à peu près un petit résumé de ce que c'est l'EPA, etc. Et là, je vais vous donner un bref aperçu de l'évolution de l'Église en Algérie. Et vraiment, elle a connu, l'Algérie moderne, on va dire, elle a connu une expansion dans les années 90. Ces années qu'on appelle la décennie noire, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de terrorisme. À cette époque, les autorités algériennes étaient vraiment investies dans la lutte antiterroriste. Les médias ne parlaient que de ça. Mais en parallèle, Dieu va susciter des circonstances telles que même les chrétiens vont être dépassés. C'était en 1999, pour vous citer qu'un exemple, et là j'étais acteur au milieu de ça. C'était un soir, j'arrivais dans mon village. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait un papa qui m'attendait. Sa fille avait des problèmes de santé. On l'avait renvoyée de son lycée parce qu'elle commençait à entendre des voix, à avoir des visions. Et son père, sachant que j'étais chrétien, va me dire, Hamid, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir voir ma fille? Il arrive quelque chose de bizarre. Tu vois, elle commence même à prier Jésus. Et puis voilà, tu vas me donner ton avis, s'il te plaît. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'elle est toujours malade ou pas? Bon. Et je suis allé le soir lui rendre visite. Elle était là, assise, je rentre dans la maison. Il y avait toute la famille, il y avait les grands-parents, les oncles, etc. Et elle était à genoux, il y avait plein de sucre autour. Et chez nous, c'est des sociétés très mystiques. Nous, on croit vraiment, on utilise certaines choses, certaines pratiques, que peut-être ici, non. Mais... Et là, c'est pour ça qu'il m'a fait appel, en fait, parce qu'il croyait qu'il y avait des démons derrière ou je ne sais pas quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça et qu'elle me parle de Jésus, elle me dit, voilà, j'ai dit bonjour, Samia, elle s'appelait. Je dis bonjour, Samia. Elle me dit, c'est ton Seigneur qui est là. Samia est avec mes autres disciples. Et là, j'ai compris que la fille, un peu, elle exagérait. Et c'est là. Et j'ai vu que Dieu m'ouvrait là une porte. Vraiment, parce que j'ai pu prêcher l'évangile et j'ai pu aussi reprendre cette fille. Et puis le papa, qui voyait un peu de business derrière. Et voilà comment Dieu a suscité cet événement, cette situation-là, pour parler de Jésus-Christ, pour faire parler, pour attirer les gens. Et le lendemain, je vous promets, j'avais passé quelques jours, quelques semaines, j'étais comme dans un tourbillon. Je ne savais plus ce qui se passait, il y avait des questions, il y avait des prières, il y avait des conversions. C'était extraordinaire. Voilà comment Dieu a suscité des événements pour vraiment répandre le message de l'évangile, pour attirer des âmes et des frères, des sœurs à lui, et puis à ouvrir les yeux. Arrive après les années 2000, la lutte antiterroriste, les autorités algériennes ont pris le dessus, et là, ils vont se rendre compte qu'il y a un phénomène chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens en Algérie. Déjà, ils vont commencer à persécuter, on va dire, l'Église. Ils s'aperçoivent de ça. Ils vont essayer de limiter le champ d'action des chrétiens. Ils vont essayer de les contenir. Ils vont essayer, ils vont accoucher de certaines lois. Par exemple, une loi en 2006 qui a été votée, pas de prosélytisme, interdit de faire du prosélytisme. Il y a eu des sœurs, des frères qui ont été arrêtés. Il y a beaucoup de barrages en Algérie à cause de la situation sécuritaire, des barrages de police, de gendarmerie, il y en a plein. On se fait arrêter lors dans un barrage, on contrôle nos affaires. Et s'ils trouvent deux Bibles, ils te mettent en prison. Qu'il y ait qu'une, c'est la tienne, c'est pas grave. La Constitution permet la liberté de conscience. Deux, la deuxième, tu vas faire quoi avec? Tu vas certainement la donner à quelqu'un, prêcher l'Évangile. On te mettait en prison. Voilà, je me rappelle d'une fille qui a été arrêtée dans une région arabophone, à 500 km de chez nous. C'est très islamisé là-bas. Il a fallu que nous, de Kabylie, on lui envoie un avocat. Parce que tous les avocats de sa région voulaient refuser de la défendre. Elle était chrétienne. Pour avoir un peu un ordre d'idée. Par contre, vous voyez, déjà, ça, c'était dans les années 2006. Et s'ils se remettent aujourd'hui à refermer, et c'est là, mes amis, la confiance que nous devons placer en Dieu, s'ils se remettent aujourd'hui à refermer des lieux de culte, c'est parce que leurs tentatives d'hier ont échoué. Oui, s'ils se remettent à refermer, parce qu'hier, ils n'ont rien pu faire. Et encore plus, parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte qu'ils ferment sont beaucoup plus grands que ceux d'hier, je vous promets. Et ils sont en plus grand nombre. Ils ont échoué hier et ils vont échouer encore aujourd'hui. C'est un phénomène qui... Amen. Amen. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mes amis. Déjà de l'époque de l'Église primitive, qu'est-ce qu'elle a produit la lapidation d'Étienne? A-t-elle réalisé la volonté de ses assassins ou la volonté de Dieu? Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 8, là où il passait, ceux qui étaient dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ, point. Les foules, mes amis, d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. Voilà ce qu'a produit la persécution de l'Église primitive. C'est ça, quand il y a persécution, quand Dieu met quelque chose en route, personne ne peut l'arrêter. Le président de l'Église protestante d'Algérie, dernièrement, je l'ai écouté aussi, au milieu de tous ces troubles, a cité Watchman Nee, un homme de Dieu chinois qui a vécu déjà... En 1903, il est né. Déjà depuis, je crois qu'il est même mort en prison, Watchman Nee. Il a dit que la persécution, il a donné cette image. Il a dit que la persécution, c'est comme un verre qu'on laisse tomber. Il se brise en plusieurs morceaux, c'est vrai. On ne peut pas le rétablir à l'identique, c'est vrai. Mais il se disperse. Voilà. Il se disperse, il va partout. Il était comme ça, un petit quelque chose, et puis il est devenu des dizaines et des dizaines de morceaux qui se dispersent comme ça. Ça, c'est l'exemple qu'a pris le président de l'église, le pasteur en plus de la plus grande église qu'il vient de fermer. L'église d'Algérie va rentrer, moi je suis convaincu, dans une nouvelle dimension, celle que son Dieu va lui donner et pas celle que les autorités algériennes veulent lui donner. Pharaon de l'époque de Moïse aussi croyait qu'il contrôlait tout dans son royaume. C'est quand même curieux qu'il ait attendu que Moïse se mette en chemin pour servir son Dieu, pour commencer à sévir. Voilà ce qui est dit par exemple dans Exode au chapitre 5. Accabler ces gens de travail, c'est les paroles de Pharaon. Plus loin il dit, et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Ce qu'il appelle ici paroles mensongères, c'est la parole de Dieu annoncé par Moïse. C'est de la même façon que traitent les autorités algériennes aujourd'hui l'évangile proclamé par nos frères et nos sœurs là-bas. Dieu dans Exode, toujours au chapitre 7, au verset 3, il est dit ceci. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Au cas où, si nos autorités croient qu'ils sont au contrôle de tout. Hein. Vous voyez, Pharaon aussi se disait, c'est moi le chef. Mais Dieu a dit dans sa parole, il a dit avant, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et s'il arrive que Dieu agisse de la sorte, Ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à notre malheur, loin de là. Plus loin, ce même Dieu va dire ceci. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens, comme les Algériens, comme les Chinois, comme les Iraniens, comme les Pakistanais, comme les Syriens, comme les Irakiens, sauront que je suis l'Éternel. Et là, j'ai écrit « Amen ». Et j'ai écrit que toute l'Église dira « Amen ». Yes, Amen. Ils sauront que notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui et son cœur. C'est ça le cœur de notre Dieu. C'est que sa volonté, c'est que tous se repentent et parviennent au salut. Tous, que les méchants se repentent, c'est ça le cœur de notre Dieu. Il ne prend pas plaisir au malheur, il permet ces situations, il les provoque même des fois, mais pour dans un but bien précis. Et parce que je suis régulièrement en contact avec nos frères, je peux vous dire qu'ils sont aujourd'hui, je suis au téléphone avec eux assez régulièrement, ici ou ailleurs, ils sont aujourd'hui plus que jamais debout, je vous le promets, plus que jamais heureux, plus que jamais fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Ils sont plus que jamais convaincus que leur Dieu est à l'œuvre et qu'il vient de déclencher au travers de cette, entre guillemets, persécution, il vient d'enclencher quelque chose d'extraordinaire. Un souffle nouveau vient et va relever la face de l'Église en Algérie et il va faire éclater sa gloire. Et là, c'est écrit encore que l'Église va, toute l'Église va dire « Amen ». Amen, mes amis. Et c'est vrai. J'espère vraiment, moi je me suis dit, mais j'espère que je pourrai leur partager cette joie, cet enthousiasme qui est le nôtre là-bas et qui est le mien aussi. J'espère pouvoir vous le partager. Parce que nos frères, nos sœurs là-bas, ils sont debout, ils sont heureux. C'est vrai. Comme à l'époque d'Étienne, on n'est pas, ses amis, quand ils ont vu Étienne mourir, ils n'étaient pas heureux, c'est certain. On est triste pour ce qui arrive à nos frères en Chine ou ailleurs. Il y a des endroits où ils passent encore des moments encore beaucoup plus graves que ça. Il y en a qui perdent leur vie. On n'est pas heureux pour ces choses, c'est certain. Mais on est heureux pour ce qu'il y a derrière. Voilà. Nous ne pouvons pas être physiquement à leur côté. Malheureusement, on ne peut pas. Dieu a fait les choses ainsi. Mais nous pouvons les soutenir. Soutenir par la prière. Vous demanderez de prier pour nos frères algériens, surtout qu'ils ne perdent pas de vue ce que Dieu a en réserve, ce que Dieu est en train de déclencher, parce que les autorités font. Prierez vraiment de prier, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne soient pas atteints par ces intimidations. Faisons de leur combat notre combat. Parce que leur victoire est notre victoire. Leur percée est notre percée, mes amis. Vraiment, je vous remercie, mes amis, de prier, de continuer. Qu'un jour, oui, toujours, c'est encore mieux. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Merci Jean, merci Hamid. Et on va passer justement maintenant un temps dans la prière. Alors, Hamid nous a donné des sujets pour l'Algérie. On va prendre 10 minutes peut-être pour prier ensemble. Le culte, comme il a commencé à 10h15, il finit un peu plus tard aussi. Mais si des personnes doivent partir, n'hésitez pas. Hein. On est libre. Je vous passe quelques sujets de prière. Donc, si on peut remettre le focus sur de l'autre côté. Voilà. Donc, on a parlé de la Chine. La Chine, dans l'index mondial de persécution sur 50, c'est au 27e rang. La Chine a dernièrement fêté son 70e anniversaire de la République populaire et le président Xi Jinping a inauguré les fêtes en disant « Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation, rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant ». Il l'a fièrement affirmé, mais il aurait pu dire la même chose de l'Église. Parce que l'Église, depuis 70 ans en Chine, n'a jamais cessé de grandir. Amin nous l'a rappelé et Jésus l'a dit, hein, Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne, n'auront pas de prise sur elle, enfin ne la feront pas tomber. Donc on va prier pour la Chine, on peut aussi prier pour le pasteur chinois Wang Yi que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, c'était écrit, ce pasteur a été arrêté 2 mois après avoir prêché ce message. Donc il a été arrêté le 9 décembre 2018 avec son épouse et ses enfants. Son épouse et les enfants ont été relâchés, mais lui il reste en prison, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Donc on peut prier que Dieu le fortifie puissamment pendant sa détention, et on peut prier pour sa famille et pour les membres de son église qui a été fermée. Tous les sujets seront remis après. On peut prier donc pour l'Iran, on a eu le témoignage de l'Iran. Dernièrement en Iran, une dizaine de chrétiens, groupe de maison, puisque l'église n'a pas forcément pignon sur rue, des chrétiens en groupe de maison ont été arrêtés. Le régime iranien a déclaré la guerre, la guerre aux églises de maison. Et c'est le cas du pasteur Victor Batamraz, on le voit pas très bien ici, il est en bas, mais il a été arrêté aussi avec son épouse et son fils. Donc on peut prier pour cette famille qui a été condamnée en raison de son engagement dans l'église. Mais malgré tout, encore une fois, comme nous l'a rappelé aussi Hamid pour l'Algérie, le pays iranien connaît de nombreuses conversions. Donc prions pour que Dieu continue d'attirer beaucoup d'Iraniens à lui. Et prions donc pour l'église d'Algérie. Donc l'Iran, c'était en 9e position dans la persécution, l'Algérie en 22e position. Et donc comme Hamid nous l'a dit, depuis 2018, le régime ferme des églises protestantes. Et la pression internationale a permis la réouverture de certaines, mais il y en a encore qui ferment. Et les chrétiens dont les églises ont été fermées subissent la pression de l'État. Et prions aussi pour tous les chrétiens qui ont quitté l'islam et qui sont confrontés du coup au rejet de leur famille. Donc voilà, tous les sujets sont là. Que chacun puisse prier des prières courtes pour qu'on puisse être plusieurs à prier. Et voilà, on va prier pour nos frères et sœurs.